Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Eric O'Donnell.
Bonjour Eric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce podcast.
Bonjour Laetitia, je suis toujours content d'être là.
Alors, Eric, après avoir été juriste et directeur juridique dans différents groupes internationaux tels que Eurosport, Chanel et Total Raffinage et Marketing, vous êtes depuis 2018 Head of Legal Operations chez Total Energy. Votre rôle, moderniser et transformer de la fonction juridique au sein de l'entreprise pour la rendre encore plus efficace et reconnue et faciliter la vie des juristes au quotidien. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de retours d'expérience à partager et que je suis très heureuse de vous recevoir dans mon podcast aujourd'hui. Alors, Eric, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation dans le domaine du droit ?
Oui, c'est long parce que ma carrière est longue et pas parce que je suis particulièrement brillant, mais parce que je suis plutôt vieux. Donc, qu'est-ce qui m'a amené vers le droit? Je pense que c'était quelque chose, ce sont des études qui m'intéressaient. J'ai pas été déçu. Et puis, donc, au début, j'ai suivi le parcours habituel d'un diplômé de droit en Irlande, qui était de faire un apprentissage pour être avocat. Donc, en Irlande, à l'époque, en tout cas, il fallait faire un apprentissage de 3 ans pour en passer en alternance avec l'école et au cabinet. Mais j'ai très rapidement voulu aller en entreprise parce que je préférais savoir pourquoi les gens demandaient mon conseil en droit, parce que je pensais que je pourrais leur donner une meilleure réponse. Je dis bien une réponse et pas une consultation. Il faut avoir une approche pragmatique. Quels sont les objectifs? Est-ce que tout le monde comprend les enjeux? Et à partir du moment où on comprend les enjeux, quelles sont les actions opérationnelles qu'on peut prendre pour minimiser ou aborder ou traiter les risques. Et donc, vous voyez où je veux venir, hein, parce que toujours les legal operations, c'est beaucoup d'objectifs, beaucoup de compréhension, pourquoi le droit a un rôle dans l'entreprise et comment le juriste peut trouver son rôle dans l'entreprise. Et ça va autant si j'exerce le droit irlandais ou le droit anglais, le droit français, ou quand j'étais en Asie, j'étais là où j'étais responsable de la zone. Le fait de pouvoir raisonner sur la base de ce qui devrait être une bonne réponse, après il faut parfois chercher un peu le droit quand même, hein, cette efficacité, tout en assurant la sécurité juridique de la société, était donc très important pour moi. Et quand je suis revenu en France, donc en 2018, m'a proposé ce rôle de legal operations que j'ai trouvé était très cohérent avec ce cheminement, ce travail, cette expérience que je pouvais du coup partager et essayer de prendre d'autres juristes dans mon sillage.
Et qu'est-ce qui a justifié la création de ce poste de legal operations au sein de Total Energy? De quel besoin finalement cette création de poste est née?
Alors, moi, je suis pas le premier tenant du poste, je suis même le troisième. Et à l'origine, le poste a été créé pour gérer la fonction juridique. Le directeur juridique de l'époque, Peter Herbel, était très, très pris par des affaires, c'est normal. Il a créé cette équipe pour dire, comme ça, la partie gouvernance, la partie administration et un peu le fond de la fonction juridique peut être traité sous sa responsabilité, mais par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il déléguait cette partie-là de la fonction juridique. Donc, moi, quand je suis arrivé avec Aurélien Hamel, on s'est dit, tiens, cet objectif reste toujours valable. Mais on voulait donner une impulsion beaucoup plus innovation et modernisation de la fonction juridique, chez Total Energy. Donc, ça, c'était ma mission.
OK. Et alors, est-ce que, justement, vous pouvez nous décrire précisément votre rôle et les différentes missions que vous avez à votre charge en tant que Head of Legal Operations?
En fait, maintenant, j'ai même pris en plus tout ce qui est cyber, les RGPD et les contrats avec la holding. Donc, l'équipe a étoffé, donc je ne m'ennuie pas parfois même le week-end. Mais en plus de traiter ces affaires qui sont plus juridiques, mais aussi gouvernance, parce que ça a un impact, par exemple, sur la gestion des données de manière générale. J'ai des questions comme la vision, la stratégie de la fonction juridique en termes de digital, gestion des ressources internes et externes, la formation, le partage. Donc, gérer quelle est notre feuille de route.
Oui.
J'ai le budget, j'ai les KPI, ce qui est un peu plus difficile chez nous.
Donc les indicateurs de performance.
Oui, qui sont très importants, mais très compliqués et très complexes dans une entreprise comme Total Energy qui est décentralisée et donc très diverse. Donc la communication, on doit savoir communiquer les nouvelles, les événements qui sont importants pour la fonction juridique, organiser les séminaires, organiser les conventions, etc.
Est-ce que vous communiquez aussi sur le rôle et justement la vision de la direction juridique et sur ce que font les différentes équipes juridiques ?
C'est une bonne question. Le rôle du juriste, j'essaye d'écrire un petit peu et de donner des podcasts, par exemple, pour expliquer comment le juriste chez Total Energy peut apporter de la valeur. J'essaye, par la communication, de la vision et expliquer quand on déploie un outil digital. C'est jamais juste parce que on veut déployer un outil digital. Il y a toujours une raison, et une raison immédiate, hein, donc boucher un trou pour la maturité de la fonction juridique, mais aussi donc dire ok, maintenant on a établi une bonne fondation, ça va nous permettre d'avancer, de progresser pour améliorer cette vision et ce rôle du juridique. Donc je dois expliquer pourquoi et où je veux tirer le juriste et la fonction juridique. C'est pas toujours facile, mais
oui, j'imagine.
Les juristes travaillent bien aujourd'hui. Et c'est ça le paradoxe, c'est que ils sont très chargés, très appréciés, ils travaillent bien, et quand on leur dit bah il faut changer, bah ils se posent la question, pourquoi je dois changer alors que je travaille bien, la preuve, la société se porte bien, donc pourquoi je dois changer? Et c'est là, c'est un message que je peux vous faire gagner du temps, mais bon, en même temps, il faut investir du temps pour gagner du temps plus tard. Mais j'ai pas le temps, donc c'est.
Donc c'est difficile à comprendre pour eux cette notion d'investissement de temps supplémentaire alors qu'ils sont déjà chargés pour un gain de temps qu'ils perçoivent pas immédiatement.
Exactement. Dans plusieurs domaines, rien que pour le bureaucratique, hein, nous utilisons Teams et SharePoint, etc. Rien que d'optimiser notre utilisation de ces outils demande un effort et il est difficile pour les gens qui n'ont pas de vraie appétence pour ces outils de faire cet effort. Si on fait pas cet effort, c'est difficile pour elles et pour les autres parce que souvent dans ce genre de situation, c'est comme la randonnée, on faut marcher à la vitesse du plus lent. Et ça peut être compliqué à moins de risquer de perdre des gens et ça c'est pas bien non plus.
Oui, non, c'est clair. Et alors, comment vous faites justement pour arriver à convaincre les équipes de finalement se mettre à ces nouveaux outils, investir pleinement toutes les fonctionnalités de ces nouveaux outils? Comment vous y prenez? Et puis, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous y arrivez?
Alors, on commence à avoir de l'attraction, oui. Donc, on communique. J'ai un contrat pro dans l'équipe qui est spécialisé dans la communication. Il a modifié notre site juridique. On communique, on va vers les gens. Est-ce que vous avez compris? On essaie de faire un peu de forcing aussi. On donne des formations. On a organisé des formations, plein de formations. Mon motif, c'est il faut continuer à balancer, Et parfois, il y a des choses qui collent. Le mur.
Oui, j'imagine. Voilà. Faut être persévérant.
Persévérant. C'est ça. Donc ça va changer.
Comment est constitué le reste de votre équipe? Combien il y a de personnes? Quels sont un peu leurs profils et leurs rôles?
Alors, donc, pour la partie Legal Ops, donc j'ai Eric, il s'appelle Eric en communication. J'ai avec un K, hein, donc comme ça on peut se distinguer. On a Nari qui est une business analyst, donc elle est ingénieure informatique.
D'accord.
Il y a Samantha qui est geek et elle est dans l'administration des outils. On a aussi Stéphanie qui est plutôt dans la gestion de projet. Elle vient du monde de communication, de l'événementiel. Voilà. Donc j'ai une équipe super.
Non, mais c'est important et puis c'est intéressant parce que finalement, dans votre équipe, il n'y a aucun juriste, c'est que des compétences autres.
J'ai des juristes dans la partie gouvernance, donc j'ai Anne qui est partie gouvernance, donc tout ce qui est conformité. Et après, pour le cyber, RGPD, d'autres contrats, ce sont des juristes qui s'en occupent.
Ok. Et est-ce que la fonction de Legal Ops est bien acceptée, bien perçue au sein de l'entreprise?
Je pense que c'est bien perçu quand les choses fonctionnent. On a des bons outils. On sait où il faut venir pour travailler sur les outils, pour savoir comment ils fonctionnent, etc. Et il sait qu'il les déploie, ils nous font confiance dans la sélection, le panel, quand on demande des volontaires pour participer dans la sélection des avocats, on a des volontaires, etc. Donc, c'est bien perçu de ce côté-là. En revanche, quand on demande de changer,
oui.
on est à la holding et il y a toujours cette partie un peu méfiance, c'est la holding qui dit c'est le projet d'Eric, hein, il complique, il nous demande de changer, pourquoi c'était pas cassé, etc. Il y a un vrai travail de
conduite du changement,
de conduite du changement et d'écoute qu'on doit faire pour rester légitime dans le mandat, les ambitions que nous avons.
Ok. Et avant qu'on parle des innovations que vous avez mises en œuvre au sein de la direction juridique, est-ce que vous avez fait une espèce d'enquête au sein des autres départements de l'entreprise pour savoir finalement quelles étaient les attentes des autres départements par rapport à la direction juridique, les choses qu'ils souhaitaient voir évoluer? Comment vous avez fait ce travail un peu amont pour identifier peut-être les points d'amélioration
C'est une excellente question parce que je pense que c'est une bonne pratique et c'est ce que je propose, j'enseigne. J'ai fait une formation récemment avec l'EDEC. Il faut faire cette cartographie, il faut faire la feuille de route, il faut chercher la participation des parties prenantes, donc pas que dans la partie juridique. Mais c'est quelque chose que j'ai appris, que j'aurais dû faire avant. On n'a pas vraiment fait ça quand j'ai commencé. Nous avons fait des ateliers avec les juristes où on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut arrêter, qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on peut sous-traiter, qu'est-ce qu'on peut digitaliser ou qu'est-ce qu'on peut déléguer vers les opérations.
Oui.
Donc, on a fait ça entre juristes et on a eu plein d'idées, donc c'était très bien. Mais je pense que impliquer les parties prenantes opérationnelles serait une bonne idée si c'est possible.
Votre champ d'intervention, c'est vraiment toutes les branches de Total.
Tout à fait. C'est ça le rayon d'action, sachant que je ne peux pas être partout. C'est même pas une bonne idée d'essayer d'être partout. On demande, on suggère, on recommande que les équipes elles-mêmes réfléchissent à des actions d'amélioration, d'innovation.
Oui, que ça vienne des équipes
exactement.
Aussi.
C'est beaucoup plus efficace et...
Oui.
Elles peuvent avoir des idées, j'aime bien être au courant, comme ça on peut partager. On peut leur donner une aide logistique ou une aide réflexion, parce que parfois on est déjà dedans, mais on n'a pas besoin d'être partout. Quoi.
Oui, oui, oui. Bah, effectivement, et puis en plus je pense qu'en termes d'acceptation et de conduite du changement, c'est aussi plus simple si ces projets prennent naissance finalement au sein des équipes elles-mêmes, et du coup bah, j'imagine qu'il y a moins ce côté que vous décriviez tout à l'heure, qui est de dire « Ah mais on nous impose des choses et nous on n'en ressentait pas forcément le besoin et pourquoi on doit changer, etc. » Donc ça doit être plus simple aussi à mener dans ce sens-là.
Tout à fait. Si elles ont leurs propres idées, ça va beaucoup mieux.
Et est-ce qu'il y a beaucoup, justement, d'initiatives qui émanent des équipes?
Il y en a pas mal. Ça dépend des équipes. Certaines équipes ont beaucoup d'excellentes idées. Et ça nous arrive aussi de prendre de bonnes idées locales et les partager et les appliquer dans d'autres branches, d'autres équipes. C'est quelque chose qu'on est très content de faire.
Effectivement, quand quelque chose fonctionne, autant voir si exactement. C'est pertinent et possible de le dupliquer ailleurs.
Et c'est pour ça qu'on aime bien être au courant des projets.
Oui, bah oui, ça vous permet aussi, vous, de dire à telle équipe, ah bah tenez, ça pourrait être peut-être intéressant pour vous aussi, parce que si vous n'êtes pas au courant, ça reste plus cloisonné au sein des départements juridiques.
Exactement.
Et alors, quelles innovations vous avez mis en œuvre au sein de la direction juridique?
Alors, les projets majeurs que nous avons faits, il y a deux ou trois que je dirais qui ont vraiment marqué. Cette époque, le premier était de migrer. On avait un outil gestion de dossier qui
oui.
marchait pas. On devait l'arrêter. C'était la fin du contrat et on devait l'arrêter pour utiliser autre chose. On avait, par exemple, 600 000 documents dans cet outil. Il fallait migrer vers autre chose. Et quand on a abordé ce projet, quand on a cherché des alternatives, etc., on s'est rendu compte que nos données étaient un peu partout, dans Outlook, dans Teams, sur les serveurs, dans les disques durs locaux, sur SharePoint.
C'était assez dispatché et pas vraiment regroupé.
Exactement. Donc, il y avait un vrai risque de perte de données, de perte de savoir-faire. C'était organisé de manière individuelle. Donc, on a consulté en interne nos équipes d'archivage. On a consulté des juristes pour savoir comment ils travaillent. Et on a proposé une politique de gestion documentaire pour expliquer aux gens, écoutez, il faut qu'il y ait une personne pour gérer le dossier. Donc, c'est-à-dire que une personne, quelle que soit la personne, doit savoir qu'elle est responsable pour l'organisation du dossier, son archivage, la navigation dans le dossier, etc. Et en plus, si on peut le faire utiliser dans Teams ou SharePoint, on peut avoir une source de vérité. Donc, c'est-à-dire un dossier pour tout le monde qui travaille dessus et pas un des bribes de dossiers qui
baladent. Oui, des versions différentes.
Et comme ça, on fait le nettoyage, on le range correctement. Et pour l'utiliser, pour faire ça, il faut optimiser Teams, il faut optimiser SharePoint. On a mis tous ces 600 000 documents dans un énorme SharePoint avec des bibliothèques différentes qui est dédié au juridique. Et là, on investit pour l'améliorer, améliorer le look, améliorer la gestion, etc. Donc ça, c'était vraiment une question de comment on gère nos documents, comment on gère nos dossiers. Mais en même temps, c'est un gros changement parce que on demande aux gens d'arrêter d'utiliser Outlook, d'arrêter de mettre des pièces jointes, d'utiliser Teams, optimiser Teams, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est un chamboulement dans la façon de travailler.
Oui, les habitudes.
Les habitudes. Et on est challengé pas mal et parfois avec de bonnes idées, de bonnes raisons de changer. On doit adapter notre offre. Il faut accueillir ça. C'est pas toujours facile de dire OK, on n'a pas très bien fait, mais bon, on peut améliorer. mais c'est normal. Donc ça, c'est un gros projet qui est toujours présent, qui nous mène vraiment à une compréhension de la gestion des données de manière plus large dans la société. Parce qu'avec les cyber et RGPD, on a cette association avec notre IT pour savoir comment nos données sont gérées et protégées.
Mais bien sûr. Et avec les outils que vous utilisez pour justement cette gestion des dossiers, j'imagine que aussi la recherche au sein de toute cette masse documentaire a été également pas mal facilitée du coup.
Ça fait partie des objectifs. On utilise SharePoint, hein, donc avec les avantages et les inconvénients de SharePoint. C'est imparfait, mais on arrive beaucoup plus à trouver ce dont on a besoin.
Et vous parliez de données, de collecte de données. Est-ce que ces données vous permettent aussi d'avoir des indicateurs de performance que vous aviez pas forcément avant pour la fonction juridique? Est-ce que vous utilisez aussi toute cette donnée que vous arrivez à collecter?
C'est un peu l'objectif. On ne les a pas encore parce que il faut vraiment que ce soit actif. On va connecter les SharePoint avec Power BI, etc. Il va nous donner justement ces indicateurs.
D'accord. Parce que il y a une grande question souvent qui revient, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir des indicateurs de performance pour la fonction juridique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, finalement, quels indicateurs doit-on choisir pour que ce soit pertinent, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples là-dessus?
C'est une excellente question. J'ai pas vraiment une réponse très claire pour nous. Je pense qu'il est important d'avoir certains indicateurs. Faut pas en avoir trop. Faut pas se perdre dans les indicateurs. Il faut pas avoir des indicateurs pour avoir des indicateurs. Il faut savoir, OK, j'ai des données. Qu'est-ce que je vais en faire pour améliorer la sécurité juridique de l'entreprise et la vie des juristes? Donc, il y a des choses comme, par exemple, le nombre de dossiers qu'on a avec un client en particulier. C'est une donnée qui est intéressante. La vitesse de traitement ou la charge de travail d'un juriste ou un autre, je pense que ce sont des indicateurs importants. Pour une fonction juridique, je pense qu'un autre indicateur, et c'est un autre gros projet, c'est les dépenses des avocats. Et sur quoi
on consulte
parce que je le dis aux gens, si on dépense 100 000 euros par exemple sur les données personnelles, peut-être que ce serait moins cher de recruter un juriste
pour
nous aider en interne. Donc, c'est une donnée qui peut être intéressante pour un manager, un directeur juridique.
Oui, ça permet finalement de réorganiser un peu en se disant, bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment pas faire nous ou peut pas faire nous et qu'on externalise et qu'est-ce qu'on externalisait jusqu'à maintenant, mais finalement, ça serait plutôt pertinent et plus intéressant aussi financièrement de l'internaliser au travers notamment d'un recrutement ou... Donc ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que sans ces chiffres-là, parfois c'est difficile de se rendre compte finalement de l'importance de l'externalisation, enfin sur certains sujets en tout cas.
Oui, tout à fait. Et sans les données, on travaille sur un ressenti. Et quand le ressenti est partagé entre plusieurs juristes, c'est pas pareil que quand on rassemble les données cumulées entre tous ces juristes.
Ce sont des éléments objectifs là.
Exactement. Et Daniel Kahneman, hein, donc c'était un livre que j'ai lu juste avant de commencer dans ce poste. Daniel Kahneman, en anglais, c'est Thinking Fast, Thinking Slow.
Oui, il est intéressant ce livre.
C'est un travail de prix Nobel hein, qui a dit que même les gens les plus expérimentés, les plus experts dans leur domaine, ils méconnaissent la vérité sur certains éléments de leur travail. Donc, le ressenti peut m'enduire en erreur et il faut les données pour objectiviser une décision, notamment sur la qualité et la valeur ajoutée qu'on peut apporter ou le travail de valeur ajoutée dans notre quotidien.
Oui, oui, tout à fait. C'est clair que c'est important.
Un autre gros projet qui implique aussi une innovation, on vient d'acheter un outil de gestion des dépenses juridiques hein, d'avocat. Donc ça, c'était après quelques années de recherche de marché, quelques années de réflexion en interne, de sondage en interne, pour savoir quel genre d'outil nous conviendrait le mieux, qui on peut inviter à un appel d'offres, et après pour écrire le cahier des charges et conduire l'appel d'offres. Mais il est surtout pour les budgets, connaître combien on dépense, valider les factures et surtout valoriser tous les détails qui sont dans les factures. Très souvent, on sait combien est la facture. Donc, on voulait un outil qui nous permette de bien faciliter ce travail de validation, de récupérer les données et pouvoir les utiliser ensuite pour améliorer notre budget. Créer un budget et voir l'évolution du budget en étant proactif plutôt que réactif est quelque chose que je pense est important pour une fonction juridique comme la nôtre.
Est-ce qu'il y a d'autres projets?
Il y en a plein, on a d'autres projets, mais ceux-ci sont les plus...
Les projets phares.
Notre panel, on vient de faire notre nouveau panel pour 2023. On a réduit le nombre d'avocats dans notre panel monde de 8 cabinets à 6. Et on l'a fait d'une manière assez innovante. Au lieu d'inviter les cabinets de nous dire pourquoi ils sont les meilleurs du monde, on a utilisé un outil Sphinx, qui est généralement utilisé pour des sondages, et on leur a posé des questions. Il y avait quand même pas mal, je pense qu'il fallait au moins une heure pour répondre, si on avait les données. Mais on avait posé des questions, par exemple, combien de projets éoliens ont-ils travaillé dessus, dans quel continent, avec quel genre de partenaire, quelle valeur.
Ça nécessitait des petites recherches.
Ça nécessitait une petite recherche. Et ils avaient des réponses fixées. Hein. On voulait pas des dizaines de pages de texte qui seraient difficiles à exploiter après.
Analyser, oui.
Et certains avocats dans le cabinet nous ont dit, d'abord, c'était facile, c'était user-friendly. Et aussi, ils ont appris des choses sur leur propre cabinet.
Oui, c'est intéressant pour eux aussi d'avoir ces données.
Exactement. Et maintenant, on a rassemblé toutes les réponses et on les met à disposition de nos juristes. Par exemple, quand ils cliquent sur, Clifford Chance, ils savent où ils sont bons, dans quelle juridiction, dans quel genre de projet ils ont fait pour les éoliens ou les solaires. Ça va les aider à sélectionner le bon cabinet dans le bon pays qui leur convient pour le projet qu'ils ont.
Et donc, oui, ça, c'est intéressant.
Et puis les cabinets sont ravis aussi, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé pour rien.
Oui, oui, c'est clair. Dans les projets phares, on a fait le tour ou est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez mentionner?
On a mis en place un CLM, gestion de contrat.
Vous utilisez quel outil?
Nous avons acheté Hyperlex. Et ce qui est intéressant, c'était que la tâche la plus difficile était de mettre toutes les branches d'accord sur le cahier des charges. Parce que, comme je disais, ils sont très diverses, ils avaient des besoins très différents. On devait trouver un socle commun avec des options que les branches qui s'y intéressaient pouvaient prendre. Après, on a amélioré notre communication, on a mis tout sur un gros SharePoint, ce qu'on appelle Juridics Hub, qui met en visibilité toutes nos relations avec nos avocats, des liens avec tous nos outils, la gestion du savoir-faire, le knowledge management, hein, c'est un autre focus pour nous. On centralise les liens, donc on est en constante réflexion d'amélioration et ça change tout le temps.
Et comment est-ce que vous y prenez pour mener ces projets? Est-ce que vous avez une méthodologie, une stratégie d'innovation particulière ou est-ce que vous l'adaptez à chaque type de projet?
On avait cette feuille de route qu'on avait établie en 2019-2020, près des ateliers, auprès des équipes. Et donc, on suit cette feuille de route. OK, on a besoin de ça, ça, ça et ça pour être complet sur le dernier rang de maturité digitale d'une fonction juridique. Et maintenant, on est dans une phase, OK, il faut revoir cette feuille de route pour les 4 prochaines années qui seront plus consolidation, pour le coup, que
mise en place de nouveaux projets.
Parfois, il faut souffler.
Oui, c'est important.
Et arrêter de dépenser. Et...
Oui, aussi. Et justement, ce sujet, est-ce que c'est facile de débloquer du budget pour justement tous ces projets de transformation de la direction juridique?
Facile, non. Par exemple, quand j'ai dit l'année prochaine, on ne prévoit pas de gros projets, bah, ils ont été très contents. Donc du coup, il était réduit. Mais ça a aidé quand on a arrêté cet outil de gestion de dossier. On a économisé pour la compagnie entière plus d'1 million d'euros.
Wow.
Donc okay. Ça nous a donné un peu de crédit pour ensuite demander un peu de budget pour les autres projets. Même à part ça, ça peut être compliqué de trouver du budget. Un autre exemple, c'est l'outil de gestion des dépenses. Il y a un coût, il n'est pas négligeable. Il y a un coût projet et il y a un coût, ce qu'on appelle le coût run, donc le coût de la licence de fonctionnement. On va demander aux différentes directions juridiques d'assumer ces coûts, mais ce sont les BU qui vont bénéficier des économies. Donc nous, on n'a pas les économies, mais on demande quand même aux équipes de payer. Ça, j'avoue que ça avait été un point assez difficile de conviction. Et on a dû expliquer que, ben, en fait, d'abord, c'est la compagnie qui en profite. C'est l'essentiel. Et deuxième, qu'il y a un avantage, gain de temps pour les juristes. C'est-à-dire que c'est peut-être pas financier, mais il y a un gain de temps pour les juristes.
Mais comme le temps, c'est de l'argent aussi.
Exactement. Mais c'est pas chiffré.
Oui, c'est pour ça que j'étais curieuse de savoir un peu comment vous y preniez pour convaincre, parce que c'est vrai que quand on n'a pas forcément la possibilité justement de chiffrer le gain, si c'est un gain de temps par exemple qui va en ressortir, c'est plus difficile qu'en arrivant avec des chiffres, des données qui convainquent un peu par elles-mêmes, quoi. Et alors donc, sur un peu votre façon de mener vos projets, du coup, au début, soit il y a des idées qui émanent des équipes juridiques, et dans ces cas-là, vous pouvez les aider dans le déploiement de ces idées, soit vous essayez de comprendre finalement comment ils travaillent, ce qui peut les frustrer, ce qui peut être problématique, etc. Et puis ensuite, tester ces idées et puis voir comment ça fonctionne, enfin, comment vous fonctionnez en fait dans la mise en œuvre des projets.
Il y a tout ça, il y a souvent des demandes, la gestion de contrat par exemple, c'était une demande. Après, pour la gestion des dépenses, c'est nous, enfin moi, qui ai identifié que c'est un besoin, parce que avant, tout était manuel, dans des feuilles Excel, parfois connectées à Power BI, hein, donc c'était pas mauvais, mais c'était manuel, c'était
dispersé.
Dispersé. Moi, je ne savais pas combien on dépensait, j'avais aucune idée combien on dépensait, ce qui est un peu gênant.
Oui.
J'ai dû convaincre, c'était pas facile. Il y avait de la réticence. Souvent, dans les endroits, et je les comprends, ils avaient pas beaucoup de dépenses. Et quand ils avaient dépenses, ils savaient combien ça allait coûter. Et puis c'est bon, c'était pas un point d'attention. Ils étaient contents de leur fichier Excel.
Oui, oui.
Donc, il y avait quand même un gros boulot, un gros challenge de persuasion, de conviction, de savoir si on a besoin. Et par ailleurs, vous allez gagner ça. Le manuel est peut-être bon aujourd'hui, mais demain, avec la croissance des tarifs, donc il faut qu'on maîtrise mieux. Et pour ça, le fichier Excel ne suffit pas. C'est un peu le rôle de LegalOps d'essayer de regarder à l'avenir. Et il faut que le directeur juridique soit convaincu, surtout.
Oui, c'est sûr que c'est important. Et est-ce que vous appliquez le legal design aussi au sein de la direction juridique? Est-ce qu'il y a eu des formations des juristes là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé ou pas encore?
Alors, oui, moi j'adore le legal design. J'ai expliqué tout au début de ma carrière que toujours j'ai cherché à répondre aux besoins, aux objectifs commerciaux. Et le legal design, faut pas le confondre avec des jolis dessins et des schémas, etc. Le legal design est d'abord que mes documents répondent aux besoins opérationnels, pas forcément les besoins juridiques. Et est-ce que je comprends pourquoi mon opérationnel a besoin de ce contrat? Et est-ce que lui, il comprend les enjeux qui sont dans son contrat? Donc ça, c'est le premier legal design. Moi, ça fait 15 ans que je fais la promotion du langage clair.
Oui.
Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on simplifie nos contrats, les langages de nos contrats et la structure de nos contrats. J'ai pris des contrats ici que j'ai pu réduire en nombre de mots de 50%.
Et c'est énorme.
Le nombre de pages, pas 50%, parce que il y avait beaucoup plus d'air, beaucoup plus de blanc.
Oui, c'était plus aéré, plus facile à lire
plus
aussi.
Plus avenant à lire.
Oui, c'est ça.
On avait fait un audit quand j'étais à Singapour. On a fait un audit et un des risques les plus importants qu'on avait identifié, c'était que les gens ne savaient pas ce qui était dans les contrats.
Ouais, ça c'est grave.
Ils les lisaient pas. Donc
qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils les lisent plus?
Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut déjà le rendre un peu plus agréable à regarder. Et donc moi, j'ai fait plusieurs formations de langage clair. Et là-dedans, j'ai surtout dit que le langage clair, c'est très bien pour ce que c'est, mais surtout, quand on aborde un nouveau contrat, en se posant la question, est-ce que c'est clair? Est-ce que le langage est clair? En fait, finalement, on se pose plus des questions sur le fond. Je dis, ben, finalement, cette clause, pourquoi elle est là?
Oui, oui. C'est vrai que ça fait revoir finalement aussi le fond, les priorités aussi, même le niveau de risque accepté. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut retravailler sur le fond en partant de cet objectif d'une meilleure compréhension des documents et une meilleure structuration, je trouve.
Exactement. Et il faut regarder le risque, non seulement contrat par contrat, mais par activité.
Oui.
Donc, si on a 100 contrats pour une même activité, peut-être il faut aviser les risques et les chances de réalisation des risques sur tous les contrats plutôt que de chaque contrat. Ça peut nous permettre de changer le modèle économique pour mieux traiter les risques et ainsi les enlever du contrat. Ça peut avoir un impact commercial énorme pour l'acceptabilité de nos contrats, l'acceptabilité de nos produits, etc. Quand on est prêt à assumer un risque, le client il peut dire bah tiens, je préfère travailler avec Total Energy qu'avec avec Shell ou quelqu'un d'autre.
Mmh.
J'explique aussi dans un contrat si on fait que par le risque, nous les juristes, on ne produira que des avertissements. Attention, attention, attention. Et aussi, si on borde trop nos contrats, la partie en face va négocier tout.
Oui,
il va dire
bah,
tout, rien ne me va, donc je négocie tout. Donc tout le monde perd du temps. Alors que si on fait comme les moines en Irlande contre les Vikings, on construit des tours rondes et on met ce qui est tout de valeur dedans. Donc c'est-à-dire que on dit bah ça c'est le plus important, ça on le protège.
Oui.
Et c'est beaucoup plus facile de protéger, de défendre une tour ronde.
Un périmètre
ronde
donné. Mmh.
Et que un gros mur long et plat. Et pour donner l'équivalent dans un contrat, si on protège l'essentiel dans un contrat, la partie en face va dire oh, ça, bon, et on est raisonnable. Oh, c'est pas tout à fait, mais bon, allez, le reste ça me va. Allez, je vais pas négocier ou je négocie moins.
Oui.
Donc c'est à dire qu'on a une période jusqu'à la signature beaucoup plus rapide.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a le temps effectivement de négociation, etc., qui peut être relativement long et coûteux du coup aussi à la même occasion.
Oui. Donc ça c'est le legal design que j'essaye de communiquer, de prêcher, mais prêcher, ouais, parce que c'est certainement un discours différent de ce qu'on a la tendance à entendre dans les facs.
Ah ben ça c'est sûr.
Dans les cabinets d'avocats.
Mmh. Ouais,
même s'il s'améliore aussi. Donc.
Et parmi tous les projets que vous avez cités, quel a été selon vous le plus efficace entre guillemets, qui a eu le plus d'impact finalement?
Difficile. Le plus de remous, c'est la politique gestion documentaire, parce que ça demande beaucoup de changements et c'est vrai que parfois les gens ne comprennent pas. Parfois il faut ajuster notre communication, parfois il faut préciser. Donc ça a eu un impact parce que c'est un gros changement.
Et est-ce qu'il y a des projets que vous avez essayé de mettre en œuvre et que vous avez dû arrêter en cours de route parce que ça marchait pas ou il n'y avait pas un accueil favorable?
Oui. Oui, oui, oui. Il y a un projet où on voulait digitaliser certains éléments de notre conformité et bon, il y avait un quiproquo, une mauvaise explication tout en haut et c'était arrêté. Ça correspondait pas aux priorités de la compagnie, donc on a dit non, ce n'est pas souhaitable, donc on peut l'arrêter.
D'accord, ok.
Pourtant, on avait quasiment signé le contrat.
Ah, mince.
Ouais.
Et vous avez déjà cité quelques difficultés que vous avez pu rencontrer, mais quelles sont, selon vous, les difficultés principales que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées?
Je dirais que la difficulté principale, c'est que les projets ou les mouvements sont perçus comme étant mes projets ou mon équipe ou la holding qui demande. Et ce n'est pas la fonction juridique. Nous devons tous agir comme ça. Et donc, d'en haut, dire, il faut qu'on travaille dans ce sens-là, tous ensemble. Et donc, travailler tout le temps derrière, essayer de convaincre, essayer de vendre des choses derrière, parfois avec des questionnements. C'est la difficulté que je rencontre et je pense que je suis pas le seul. Et comment je l'aborde, bah, c'est continuer à aller vers les juristes, à aller travailler avec l'équipe, accompagner les juristes, participer au séminaire, continuer à prêcher, continuer à parler, à continuer à balancer sur le mur, hein, parce que parfois, ça colle.
Et est-ce que vous essayez de trouver aussi des relais au sein des équipes pour justement que ça entraîne le reste des équipes?
Exactement. Il faut trouver des ambassadeurs qui sont partants, qui sont ouverts et qui sont même enthousiastes. Il faut les utiliser comme levier dans les équipes et des gens externes aussi. J'essaie de, oui, de faire des articles, de regarder cet article, regarder ceci, etc. Donc, c'est pas que moi, c'est pas que Eric qui pense ça.
Oui. Montrer que c'est partagé, finalement.
C'est partagé, etc. Donc, il faut avoir cette confiance que le cap, c'est là où on doit aller, même si on tire des bords, on doit l'adapter, on doit avoir d'être humble, de dire qu'il faut améliorer ce qu'on a proposé. Et c'est ça aussi, hein, quand on adapte quelque chose, quand on dit « Ok, nous, on propose ça, mais ça ne marche pas pour moi », c'est pas grave, on peut l'adapter pour répondre à tes besoins. Et si les gens voient qu'on est capable de faire ce genre de pivot et ce genre d'exercice pour eux, ils avancent avec nous plus. Ils ont plus confiance, quoi. Donc,
oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et quels sont, selon vous, les premiers pas à faire pour entamer un processus de transformation d'une direction juridique, les premières étapes?
La première étape doit être de faire une cartographie, hein, de faire des cartographies des parties prenantes, de la maturité dans les opérations de la fonction juridique, de comprendre le travail, où sont les points d'attention, où sont les points de tension. Donc, il faut comprendre les enjeux business et les enjeux quotidiens des juristes.
Oui. Et quelles sont les erreurs à ne absolument pas commettre?
Celles que j'ai faites.
Ça fait ça.
Une erreur, ce serait d'être trop investi émotionnellement dans un projet. Parce que quand on le critique, ou même dans le bon sens du terme, un projet, si on est trop investi dans notre projet, on risque d'être très déçu, voire plus. Et en plus, nos parties prenantes, nos collègues, vont pas avoir confiance.
Oui.
On est trop rigide, on est perçu comme rigide. Donc en plus, nos projets n'avanceront pas. Et puis une autre, c'est de ne pas consulter, penser qu'on a toutes les réponses. Ne pas consulter quels sont les besoins, ne chercher pas à comprendre les besoins et ne pas adapter ses propositions pour les besoins. Et le troisième, il faut quand même continuer. Il faut fixer, oui, son cap. Il faut pas changer le cap tout le temps. Comme je disais, on peut tirer des bords.
Garder son cap.
Mais quand on est dans la bonne direction, il faut garder son cap. Parce que si on change de cap tout le temps, on se perdra.
Et on perdra les équipes aussi. Et à contrario, quelle clé de succès vous voyez à une transformation réussie?
Il faut une bonne conduite de changement. Il faut accompagner, comprendre, traiter les vrais besoins. Et moi, j'appelle les vrais besoins, c'est pas toujours les premiers, oui, qui sont exprimés.
C'est creuser, oui, c'est ça.
Pour creuser, pour identifier les vrais besoins, les traiter, consulter, écouter, adapter. Et convaincre l'hiérarchie, les chefs aussi de le faire. Il faut agir par le bas avec,
oui,
le haut aussi.
Il faut embarquer tout le monde finalement.
Il faut embarquer tout le monde. Mais si le message, ça on a beaucoup vu, hein, on me l'a dit, si c'est perçu comme étant,
oui,
une option,
ça sera
une
pas
recommandation,
fait.
Suggestion.
Et ça, pour ça, vous avez absolument besoin du soutien de la hiérarchie.
Du directeur juridique, ouais.
Et alors, quelles compétences vous avez acquis dans le cadre de ces nouvelles fonctions de Legal Ops et quelles compétences vous semblent indispensables pour exercer ce rôle?
Je pense que je me suis amélioré en gestion de projet, en termes de vendre des projets, communication. Donc, je pense que je me suis amélioré, j'ai acquis ou j'ai complémenté ce que j'avais des fondements avant. Et il faut ces compétences, il faut savoir comment gérer un projet. Il faut savoir comprendre l'IT, d'ailleurs. Il faut comprendre comment on fonctionne. On n'a pas besoin d'être geek, on n'a pas besoin d'être informaticien, mais il faut comprendre comment un outil informatique fonctionne avec les 1 et les 0. Comment on peut aider? Il faut avoir une vision plus macro des process que micro. Pas se perdre dans les détails, mais il faut comprendre les détails. Puis on en a parlé, il faut la persévérance.
Ça, c'est la clé de tout. On touche à la fin de l'interview. Quel conseil vous souhaiteriez donner aux juristes, aux directeurs juridiques qui nous écoutent, qui souhaiteraient se transformer, innover?
Bah, allez-y, hein. Transformer du droit, c'est du métier, c'est pas que du glamour. On parle beaucoup de transformation de droit comme si c'était nouvel Eldorado. C'est un process. C'est pas une révolution.
Oui, ça se fait petit à petit.
Petit à petit, la recherche continue de l'excellence, pas de perfection, mais de l'excellence. Essayer de faire mieux tous les jours. Parfois, on fait des gros sauts, parfois des moins gros sauts. Mais allez-y, c'est à la portée de tout le monde.
Eh ben, merci beaucoup, Eric. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous.
Merci.
Et puis, merci d'avoir partagé tous ces retours d'expérience. Et puis, à bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note, de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du Vent sous la Robe sur les réseaux, donc il y a une page sur Instagram, une page sur Twitter, une page sur LinkedIn, une page sur Facebook, et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. C'est vraiment fait pour ça, ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt !